Les jardinières.
Et on se réveille en douceur, prêt à mettre les mains dans la terre. Soyez les bienvenus dans les jardinières. Bonjour Mike.
Mais bonjour Noélie, ravie de vous retrouver pour débuter ce samedi matin à vos côtés.
Il s'est levé tôt pour profiter du lever du jour et pour venir chez les jardinières. Bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Noélie.
Pierre-Yves Turcher, vous êtes paysagiste et propriétaire de Créa Jardin Turcher SA à Tavannes. Merci d'être avec nous ce matin.
Et bon début de matinée, les jardinières, c'est votre émission jardinage du samedi matin. Nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
7h, 8h, les jardinières.
On touche gentiment à la fin de l'été, on sent que l'automne s'installe, les températures baissent légèrement. Avant de se plonger dans notre thème du jour, qu'est-ce qu'on peut faire ces prochains temps au potager, Pierre-Yves ?
Alors au potager, ben, c'est la période maintenant pour récolter les choux, récolter les derniers légumes, sortir peut-être les oignons s'ils ne sont encore pas sortis, bien laisser sécher la tige de l'oignon pour que l'oignon ne pourrisse pas après. Dans le jardin, c'est la grande saison maintenant pour récolter.
Merci. Pierre-Yves, vous êtes notre invité jusqu'à 8h dans la suite des jardinières. Vous répondrez aux questions de nos auditeurs et toujours trois possibilités pour nous joindre, soit par téléphone au 0901 70 20 20, et vous parlerez en direct avec Pierre-Yves. Vous pouvez également nous envoyer une photo avec votre question via le formulaire disponible sur notre site, ou alors simplement un petit SMS. Vous tapez jardin, un espace, votre question, votre nom et vous l'envoyez au 939.
Les jardinières.
Ce matin, dans les jardinières, on commence par parler de nos pelouses, ou plutôt de nos gazons, avec Pierre-Yves Turcher, paysagiste à Tavannes. Pierre-Yves, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'on appelle exactement un gazon en jardinage ? Est-ce que toutes les pelouses sont des gazons ?
Alors non, Noélie, toutes les surfaces vertes pelouses ne sont pas des gazons. En professionnel, un gazon, c'est vraiment un tapis végétal composé de graminées. Et la graminée, bah, c'est une plante monocotylédone, ce qui veut dire c'est ces fines herbes qu'on l'on peut semer, ou maintenant la grande mode, c'est de les poser en rouleau. Le gazon se pose en rouleau. Et puis un gazon, c'est vraiment quelque chose qui est entretenu par des tentes régulières. Il doit rester dense et pour qu'on ait un bel esthétique. Et puis après, ce qu'on appelle plutôt une pelouse, eh ben ça peut être beaucoup plus naturel, avec des herbes diverses, des fleurs, des trèfles. Mais pour vraiment avoir un beau gazon, ce qu'on appelle un gazon, c'est vraiment l'entretien que l'on accorde à son gazon qui déterminera fortement sa qualité.
Et justement, Pierre-Yves, est-ce qu'il existe des types de gazon ou de tapis végétal ? J'ai noté ce que vous avez dit. Mieux adapté à nos régions, au Jura, Jura bernois, Neuchâtel, en tenant compte bien sûr de l'altitude et de l'orientation du terrain.
Alors oui, absolument. Pour les régions, alors pour nous, les régions d'altitude, c'est vraiment 1000, 1200 mètres et en dessus. Jusque-là, on peut vraiment faire un beau gazon. Et là, on choisira vraiment pour l'altitude, vraiment la montagne, on choisira des mélanges beaucoup plus résistants au froid et surtout à la sécheresse, parce que plus on monte en altitude, moins on aura de terre végétale et le dessèchement en été sera beaucoup plus considérable. Pour les terrains ombragés, ben c'est clair, un terrain très ombragé, on n'aura pas de gazon, c'est quasi pas possible. Il existe des mélanges de semences pour l'ombre, où on peut mettre sous les arbres ou comme ça, avec beaucoup plus de résistance, mais le gazon aime bien le soleil. Et puis là, vous pouvez vous faire conseiller par les marchands grainiers qui ont vraiment des mélanges spécifiques. Et bien pour la montagne, on a le gazon alpin ou dans un mi-ombre légèrement ombragé, on a une semence ombre qui fonctionne très bien.
On entend de plus en plus parler de gazon écologique. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de laisser son gazon pousser librement ?
Oui, c'est quelque chose de très intéressant. Pour moi, tout ce qui vit, tout ce qui est de l'herbe, on parle d'écologie. Mais oui, si on accepte un aspect beaucoup plus naturel de son gazon, et là je parlerai d'une pelouse. Une pelouse, on a vraiment quelques trèfles, on nommerait ça plutôt, si on laisse venir des fleurs dedans, on parle plutôt en professionnel d'un gazon fleuri. Ça sera un gazon qu'on va moins tondre, on mettra pas d'engrais, et puis surtout, on ne va pas traiter les plantes indésirables avec des herbants sélectifs. Parce qu'il faut vraiment que, ben, si on laisse venir un gazon naturel et écologique, eh ben, c'est très intéressant d'avoir des pissenlits, d'avoir des trèfles, d'avoir d'autres plantes où les insectes sont attirés pour polliniser comme des plantes mellifères. Et c'est clair qu'un gazon qu'on laisse naturel, une pelouse qu'on laisse naturelle, pour la biodiversité, ben, c'est quelque chose de très important.
Et maintenant, peut-être une question qui est le dilemme de tous les propriétaires. Comment est-ce qu'on pourrait créer un gazon qui est à la fois esthétique, beau, joli, mais également bénéfique pour la biodiversité, notamment les fleurs, les herbes, etc.
Alors, c'est clair, si vous avez une nouvelle parcelle à ensemencer, on peut vraiment semer des mélanges de gazon fleuri. Un gazon fleuri sur la surface en terre. Et puis, votre gazon, il va mettre un petit peu plus de temps à s'établir parce que dès qu'on a de la fleur, c'est plus lent à l'établissement, mais on arrive vraiment à quelque chose de très joli. Et puis, ce qu'il faut bien savoir, que si on fait un gazon fleuri, quelque chose qui est esthétique et bénéfique pour la biodiversité, eh bien, on fait aussi beaucoup moins de tonte. On ne va pas le faucher très bas. On va le faucher beaucoup plus haut pour que les fleurs puissent vraiment germer et puis venir à maturité. Et puis, ce qui est très important pour des gazons fleuris aussi, c'est au printemps, quand on a beaucoup de fleurs, beaucoup de végétation intéressante, ça serait de faucher et de laisser les déchets 1-2 jours sécher, que les fleurs puissent vraiment s'ensemencer plus loin et puis qu'on puisse avoir quelque chose d'intéressant. Par contre, après, une fois que le gazon ou les déchets sont secs, il faut les évacuer pour ne pas donner trop de déchets compostables après sur le gazon qui donnerait de l'azote et qui ferait pousser rapidement les graminées.
7h, 8h, les jardinières.
Nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Yves Turcher, paysagiste à Tavannes. On parle notamment des gazons. Pierre-Yves, on voit parfois des pelouses qui jaunissent en été, surtout avec les sécheresses. Est-ce qu'il y a des alternatives aux gazons classiques qui résistent mieux à la chaleur et qui demandent moins d'eau?
Alors, des alternatives, très peu dans le gazon, parce que le vrai gazon est très gourmand en eau. On peut opter pour des alternatives de semences plus résistantes, mais là, on viendra tout de suite dans des prairies sèches ou avec graminées rustiques. Ces solutions restent vertes plus longtemps, mais pour moi, la meilleure solution est de bien nourrir son gazon avant les canicules. Si on veut garder un beau gazon, ben là, à fin du printemps, on met de l'engrais, on le nourrit. Et ensuite, dès que les chaleurs sont présentes, ne plus faucher son gazon très court, mais égaliser les plus hautes graminées, couper à 6-8 cm afin que le gazon reste bien dense. Une graminée supporte un 30 degrés. Après un 30 degrés, elle surchauffe et à 35 degrés, en général, elle dessèche si elle est coupée très courte.
Bon, alors on a parlé de la chaleur que supporte le gazon, mais comment supporter des enfants ou des animaux qui vont fréquemment sur ce gazon? On cherche souvent un gazon plutôt robuste. Est-ce qu'il existe quelque chose qui est à la fois résistant mais écologique également?
Oui, il existe des mélanges robustes. Maintenant, pour les enfants, ben c'est clair, c'est quelque chose de connu. Les enfants aiment bien jouer dans le gazon. Là, si vous prenez un gazon sport, il est plus résistant au piétinement parce qu'il a du pâturin et du régrain anglais. Et puis, il est plus résistant au piétinement. Par contre, pour les animaux, c'est toujours un thème très compliqué. À mon avis, si vous avez un beau gazon, on ne peut plus tellement avoir des animaux dans le gazon parce que le gazon va très vite se transformer en prairie. Mais pour la petite histoire, si vraiment vous avez des poules dans votre pré et que vous aimeriez vraiment que ça reste vert, il existe une semence très résistante au picotement des poules. Et puis, c'est quelque chose qui reste vert plus longtemps qu'un gazon. Mais un gazon, piétinement, il faut partir sur un gazon sport. Pour les enfants, c'est ce qui est le mieux et le plus résistant.
Et côté entretien, est-ce que certaines pratiques sont à éviter pour ne pas abîmer la vie du sol ?
Alors, je dirais trois choses à retenir pour ne pas abîmer la vie du sol. Éviter les désherbants, pour moi, ça c'est la chose la plus importante. Les désherbants détruisent la vie microbienne qui est dans le sol. Une chose que j'ai déjà dit, pour le gazon, ne pas tondre trop court. Sinon, le sol s'assèche et puis le col des graminées surchauffe et dépérisse. Et puis ensuite, fertiliser modérément avec les bons dosages et de préférence avec des engrais organiques. On voit trop souvent la tendance des années 80-90 où on achète un sac d'engrais, sans lire les notices et en double ou en triple le dosage d'engrais pour avoir vraiment un beau gazon. Et ça, c'est quelque chose qui détruit le sol.
Les jardinières.
Et les jardinières qui continuent votre émission Jardin dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions avec plusieurs possibilités. Vous pouvez le faire par téléphone par exemple au 0901 70 20 20. Vous pouvez également le faire par notre formulaire sur notre site internet avec votre question, une petite photo ou alors tout simplement par SMS. Vous tapez Jardin, un espace, votre question, votre prénom et vous l'envoyez au 939.
Et nous sommes toujours en compagnie de Pierre-Yves Turcher, paysagiste à Tavannes. Et puis pour la deuxième partie de notre émission, après les gazons, on s'attaque maintenant à un autre élément clé du jardin, les haies. Pierre-Yves, dans notre région, on voit encore beaucoup de thuyas ou de lauriers. Pourquoi recommandez-vous plutôt des haies diversifiées ?
Parce qu'elles sont beaucoup plus vivantes, elles sont beaucoup plus naturelles. Une haie diversifiée, elle offre aussi de la nourriture et un abri pour les oiseaux, les insectes, les hérissons. Les thuyas sont monotones, sont pauvres en biodiversité et de plus en plus sensibles aux maladies par rapport au changement climatique.
Donc concrètement, quels avantages on sait, par exemple, pour la faune locale ?
Alors, comme je l'ai dit, elles fournissent du pollen, elles fournissent des baies, des graines, elles aussi des refuges pour les nids. Cela aide les pollinisateurs, nourrit les oiseaux en hiver, même pendant la saison, et crée un petit écosystème dans votre jardin.
Est-ce qu'il y a des espèces indigènes que vous recommandez particulièrement pour composer une haie adaptée à notre climat ?
Oui, alors j'aime bien faire une haie diversifiée avec du noisetier, du cornouiller, de la viorne, du fusain, du prunelier. Et puis si vous n'avez pas peur des épines, même de l'aubépine. Donc, ces espèces sont très adaptées à notre climat et puis bénéfiques pour la faune.
Donc ça veut dire qu'on peut mélanger en fait des espèces fleuries, fruitières et des arbustes persistants ou alors il faut rester plutôt cohérent dans le choix des plantes qu'on va choisir ?
Ah non, si on veut vraiment diversifier, on peut vraiment, c'est même recommandé, on peut combiner vraiment de l'arbuste fleuri, des petits fruitiers. Hein. On peut très bien mettre des groseilliers et puis mettre de la mélanchier, mettre du noisetier. Quelques plantes persistantes comme le houx pour avoir de la verdure en hiver. La diversité d'une haie, c'est la clé du succès.
Pierre-Yves, quelles erreurs sont les plus fréquentes quand on plante une haie ?
Alors vraiment, des grandes erreurs, il me semble qu'on ne peut pas vraiment faire, mais un peu les classiques, on a souvent l'impression que les plantes sont petites, on les serre, et puis après, quand elles poussent, qu'elles grandissent, elles s'étouffent. Et puis là, on a pas mal de pertes. Une erreur, ne pas entretenir au départ. Ce qui veut dire j'ai planté dans un endroit du jardin où j'entretiens un peu moins, on laisse pousser l'herbe fortement, l'herbe envahit les plantes et font dépérir les plantes. Après, ce qu'on voit souvent aussi, on plante en automne, et puis l'été suivant, on part en vacances, et puis on oublie d'arroser. Et puis là, c'est clair, les plantes, si on a de la canicule pendant les vacances, elles ne vont pas bien supporter. Et puis, ce que je dirais aussi, choisir uniquement, une erreur, choisir uniquement des persistants, ça limite énormément la biodiversité. Faire une haie de thuya ou de laurier et tout prendre la même espèce, pour moi, c'est une erreur.
Et du coup, d'un point de vue de l'entretien, est-ce qu'une haie diversifiée comme ça demande un peu plus de travail qu'une haie plutôt dite classique ?
Je dirais pas forcément. Une haie diversifiée, elle se taille une fois par an. Et puis, il faut bien se dire qu'une haie diversifiée, on peut la tailler par étapes. On peut très bien, au printemps, faire un tiers de la haie parce qu'on taille les arbustes sans fleurs, les arbustes de printemps. Et puis après, en été, au courant de l'été, on taille les arbustes qui ont une floraison printanière ou début de l'été. Et puis en automne, on taille les persistants. Et puis on a moins de travail, ou bien le travail est beaucoup mieux réparti. Si vous prenez la fameuse haie de thuya, si vous voulez une belle, je mettrai entre parenthèses, mais si vous voulez une haie de thuya entretenue, c'est une taille stricte toutes les années. Et puis, il faut voir aussi qu'une haie diversifiée est beaucoup plus résistante aux maladies et beaucoup plus attractive. Ne doit pas être gelée, mais si on prend maintenant la période octobre, début novembre, le sol est encore chaud, les racines peuvent bien s'installer, et puis on évite beaucoup d'arrosage pendant la période calme, période de l'hiver, et puis la haie repart bien vigoureux après au printemps. Par contre, au printemps, ne pas oublier, si vous plantez en automne, ne pas oublier au printemps, un petit peu d'engrais azoté pour relancer la plante. Et puis, comme je l'ai déjà dit, l'arrosage sur la première saison est très important.
7h, 8h, les jardinières.
Bienvenue si vous nous rejoignez maintenant pour la suite des jardinières et merci à vous si vous nous suivez depuis 7 heures. Nous sommes en compagnie de Pierre-Yves Turcher, paysagiste et propriétaire de Créa Jardin Turcher SA à Tavannes. Pierre-Yves nous a parlé des gazons et des haies diversifiées en première partie d'émission, sujet que vous retrouverez en podcast en cours de matinée sur notre site. Il est temps maintenant de répondre aux questions de nos auditeurs.
Et justement, si vous en avez une de questions, vous pouvez nous la poser en nous appelant au 0901 70 20 20 et vous parlerez en direct avec Pierre-Yves. Vous pouvez également nous envoyer une photo avec votre question via le formulaire disponible sur notre site sous l'onglet émission questions aux jardinières, ou alors encore plus simple, un SMS, vous tapez jardin, un espace suivi de votre question et votre prénom et vous l'envoyez au 939.
Pierre-Yves, on a reçu cette première question qui nous est parvenue cette semaine par formulaire. Elle nous vient de Mathéo de Tramelan qui nous demande « Comment réussir à faire repousser le gazon dans de la boue après un chantier ? Et est-ce que c'est la bonne saison ou pas pour le faire ?»
Oui, alors je répondrai à Mathéo que c'est la bonne saison pour le faire. Maintenant, jusqu'à fin septembre, sans autre. Par contre, réussir à faire repousser un gazon dans de la boue, premièrement, la boue doit être asséchée, parce que si on est dans un terrain boueux, on ne va pas pouvoir faire de semis. Et puis, une fois que la boue est asséchée, il faut vraiment labourer la partie, redonner de l'air, parce que s'il y a eu de la boue, beaucoup d'eau, le terrain est compact, il n'y a plus d'air, il n'y a plus de vie. Il faut labourer, bien labourer, égaliser, et puis, bien souvent, donner un petit peu d'amendement, un petit peu de compost pour pouvoir renourrir la terre, et puis après, égaliser, semer, pas oublier de rouler, et puis si le soleil brille, arroser dessus, et très vite, on aura de nouveau du gazon à la place du chantier.
Et une autre question nous est parvenue, c'est celle de François de Mervelier qui nous parle du potager. Il nous dit, après les récoltes, est-ce qu'il faut laisser le potager au repos ou bien il faut le couvrir, pailler, semer quelque chose ? Il a entendu parler d'engrais verts, mais il ne sait pas trop comment faire. Est-ce qu'on peut l'aider ?
Alors, après les récoltes, le potager, On a différentes manières de gérer son potager. Moi, j'aime bien les recettes de grand-mère. Et les recettes de grand-mère, c'était après les récoltes, on nettoie son jardin, on le laisse reposer. Comment ? On fait un labourage d'automne, on enfouit du fumier bovin ou du compost et on laisse le jardin jusqu'au printemps et on repart. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, la tendance est aussi d'être beaucoup plus rentable, au moins sur les grands jardins maraîchers et tout, mais dans nos petits jardins aussi, il existe des engrais verts. Et l'engrais vert, c'est quoi ? Eh bien, c'est après la récolte, on laboure très légèrement, on sème des plantes qui vont donner de l'azote après, qu'on va pouvoir laisser pourrir, et ça aide vraiment à nourrir la terre et à aérer la terre par rapport aux racines. Par contre, ce qu'on voit souvent dans un jardin potager, ben on le sème très tard. Et vraiment, la rentabilité de l'engrais vert, il est pas 100%. Pourquoi ? Parce que la saison suivante, on devrait quasi laisser germer et travailler l'engrais vert et le labourer après l'été suivant. Et puis, on loupe une saison de culture. C'est pour cette raison... Si vous avez la possibilité, laissez reposer votre jardin, faites un labourage et puis prenez vacances août l'hiver.
7h, 8h, les jardinières.
Il est déjà presque l'heure pour les jardinières de s'en aller ce matin. Nous avons parlé de pelouse et de haies en compagnie de Pierre-Yves Turcher. Si vous avez manqué ces conseils et ces explications, vous pourrez réécouter l'émission en podcast en cours de matinée sur notre site. Pierre-Yves, avant de se dire au revoir, que conseillez-vous de faire au jardin ces prochains jours ?
Alors, au jardin ces prochains jours, on a parlé de gazon. Alors, vous pouvez, si vous avez un beau gazon, penser à mettre prochainement un engrais organique pour encore nourrir et renforcer le gazon pour bien passer l'hiver. Et puis après, on commence dans les travaux, les tailles, les vivaces qui ont fleuri, commencer à couper les ampes florales. Il y a pas mal de boulot au jardin à l'automne. C'est une belle période pour le jardinier amateur, mais aussi pour le professionnel.
Pierre-Yves, quand vous dites une taille, qu'est-ce qu'on doit tailler exactement pendant cette période de l'automne ?
Alors, comme je l'ai dit, pour les vivaces, c'est vraiment ce que les plantes qui ont fleuri, qui ont séché maintenant. Et puis après, on peut vraiment, comme dans les haies, encore terminer de tailler. On peut commencer les persistants maintenant, faire de la taille. On peut tailler aussi... dans le jardin, peut-être, maintenant, les petits fruits, maintenant, ce qui a fructifié, maintenant, on peut déjà commencer une légère taille dans le jardin.
Merci Pierre-Yves. On se donne rendez-vous samedi prochain dès 7h pour une nouvelle émission des jardinières. Pierre-Yves, on rappelle que vous êtes paysagiste et propriétaire de Créa Turcher SA à Tavannes. Passez un bon week-end et à bientôt chez les jardinières.
Et d'ici là, vous pouvez poser vos questions si vous n'avez pas eu l'occasion de nous atteindre aujourd'hui ou de poser votre question. Vous pouvez le faire en remplissant le formulaire qui est directement disponible sur notre site internet. On se fera un grand plaisir d'y répondre la semaine prochaine. Et quant à moi, Noëlly, je vous souhaite un très bon week-end. Et également à Pierre-Yves, je vous dis à bientôt.
Bon week-end à vous, Mike, et bon week-end à vous toutes et à tous.
7h, 8h, les jardinières. Thank you.